Allez, la question de la semaine, je pense que c'est une question qui vous occupe l'esprit. Alors, ça devait être, la crise bancaire est-elle déjà terminée? Puis j'ai eu ma réponse, j'ai préparé ça jeudi, puis vendredi, ben non. Elle n'est pas terminée, on a cru une petite bombe nucléaire, après on s'est dit bah finalement c'est qu'une grenade, c'était la Silicon Valley Bank, et puis Crédit Suisse, et puis patatras, voilà que vendredi maintenant on s'attaque à la Deutsche Bank. Je rappelle Romain Burnan que dans votre jeunesse, c'était il n'y a pas totalement longtemps parce que vous êtes très jeune, vous étiez analyste spécialisé sur les banques, vous pouvez nous expliquer ce qui se passe?
Les banques, c'est un secteur qui est volatile par nature. Et les banques en général, les actionnaires des banques n'aiment pas les stress, que ce soit des stress politiques, géopolitiques, économiques, financiers. Et donc la réaction des banques est toujours boursière, a toujours été une réaction violente. On l'a vu multiples fois dans le passé, sans que nécessairement ça se traduise par des crises économiques ou surtout des crises bancaires majeures. Très récemment, on l'a vu pendant le Covid. Pendant le Covid, en quelques semaines, voire quelques jours, le cours des banques a perdu 40%. Alors bien sûr, l'économie a bien passé la période du Covid, parce que les États ont soutenu les entreprises, et tout est après revenu dans l'ordre. Et je me souviens, après, on avait l'idée de dire, ah ben, qu'est-ce qui va se passer une fois que l'économie repartira? Il y aura des gens qui n'auront pas le moyen de financer leur croissance. Il ne s'est rien passé. Et les banques ont fait des résultats très corrects. Ont provisionné d'ailleurs pour des risques qui finalement ne se sont pas matérialisés. Et puis on a la guerre en Ukraine, rebelote. Cette fois, les banques n'ont perdu, je dirais, que 30%. Tout au début de la guerre, comme indicateur de stress, en disant la guerre en Ukraine va se traduire par une récession économique. Bon, par chance, on l'a évité, et les banques sont revenues à des niveaux pré-crise en Ukraine.
Sauf que là, c'est elles qui sont visées. C'est-à-dire, elles étaient victimes collatérales d'événements exogènes. Là, elles sont la cible.
Là, elles sont la cible. Alors, aux États-Unis, il y a eu des bankruns.
Oui.
Le Crédit Suisse, qui est un animal malade,
oui,
en Europe depuis plusieurs années. Hein, donc, oui, ce n'était pas un secret que le Crédit Suisse, il avait fait une augmentation de capital de sauvetage, oui, au mois de décembre.
D'accord.
De 4
milliards. Jusque-là, je vous suis.
Voilà.
Mais maintenant, c'est la Deutsche Bank.
Alors maintenant,
et demain, ça sera peut-être une banque italienne. Et après-demain, ça sera peut-être la Société Générale.
Oui, mais aujourd'hui, la Deutsche Bank effectivement baisse, parce qu'il y a un article, il y a le sujet d'exposition de la Deutsche Bank, oui, il y a la crainte sur le secteur immobilier commercial, oui, aux États-Unis.
Mais on trouvera toujours une excuse.
Oui, il y aura toujours une excuse.
Vous avez l'habitude.
Après, il faut voir si vous voyez, il y a une différence entre la volatilité du cours de banque et le risque des déposants.
Ça, je suis d'accord. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas de risque de déposant.
Alors,
par contre, ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où on instille le doute, c'est-à-dire qu'on commence à dire, la Deutsche Bank, et que vous voyez l'action de la Deutsche Bank baisser, vous retirez votre argent de la Deutsche Bank, et donc il commence à y avoir un bank run, et ça s'auto-alimente.
Alors, si vous retirez l'argent de la Deutsche Bank, vous la mettez à la BNP, et vous la mettez chez ING.
Ça tourne. Parce que
ça tourne.
Ça veut dire qu'à la fin, on peut se retrouver avec JP Morgan, Citibank, Bank of America aux États-Unis, deux banques en France, une banque en Italie, une banque en Allemagne.
Non, mais je veux dire, vous voyez, c'est retirer ses dépôts d'une banque à l'autre. Ça change pas l'équilibre de financement du secteur bancaire.
Mais ça crée une panique. Et donc, banques centrales sont obligées d'intervenir. Et comme maintenant, on sait qu'on ne sauve plus les actionnaires, des banques,
finalement. Bien sûr, ça fait une panique pour les actionnaires.
Ah ouais. Ça fait une panique pour les actionnaires.
Ça fait une peur, ouais, un stress. Un stress pour les actionnaires. C'est pas normal.
Ben Aouda, vous vivez ça comment, d'un point de vue, enfin, avec votre vision un peu stratégique?
Il faut en parler deux minutes au fonds souverain du Qatar et à la Banque nationale d'Arabie Saoudite qui a été rincée. En leur faisant croire il y a 4 mois que vous allez voir, il y aurait un plan de restructuration. Ils y ont cru. Pourquoi? C'est une question à se poser. Et en parallèle, pour revenir à cette vision internationale, ce week-end, à Hong Kong, HSBC, pour ne pas la nommer, rouvre plusieurs agences pour travailler 7 jours sur 7, parce qu'il y a des informations de plus en plus probantes, notamment via la presse financière chinoise, que des dizaines et des dizaines de milliards de dollars sont rapatriés vers Singapour et vers Hong Kong, en provenance de cet argent qui est sorti des banques occidentales pour faire large. Et c'est marquant d'ailleurs à cet égard qu'un organe du Parti communiste, encore une fois chinois, titrait « Les investisseurs votent avec leurs pieds ». Et c'est aussi une forme de déséquilibre qui est en train de se créer aussi via le secteur bancaire. Ou de nouvel équilibre.
Vous n'étiez pas d'accord, Hervé. Je vous sentais bouger sur votre siège tout à l'heure avec Virginie.
Non, mais c'est... c'est compliqué. Moi, je ferai trois réflexions. Je proposerai trois réflexions. La première, une crise bancaire, habituellement, c'est parce qu'on découvre une perte dans un des portefeuilles à l'actif de la banque et on se dit, ah mon Dieu, on n'était pas au courant. Et c'est là où il y a une fuite devant les dépôts. La Silicon Valley Bank, c'est ça. Et puis, ce risque... sur un établissement peut s'élargir si après, par le jeu des contreparties des uns et des autres, eh bien, cette fuite des dépôts s'élargit. Le cas de Crédit Suisse, on n'en était pas là du tout. Le Crédit Suisse, il y avait un affaiblissement, une ambiance qui devient un peu prudente ou hostile par rapport aux banques, et puis il y a le rachat par UBS. Donc, en fait, les crises ne sont pas toujours de même nature, et on en a vécu deux. Le deuxième point, et c'est une difficulté supplémentaire, c'est que tout ça se fait à un moment où le resserrement monétaire est en cours, ce qui fait que sur les portefeuilles d'investissement des banques, si c'est pas très bien géré, on peut avoir des problèmes et on se retrouve devant la difficulté
pour les banques. Donc c'est un contexte favorable pour spéculer contre les banques.
Et ça devient plus compliqué pour tout le monde parce qu'on ne sait pas ce que les banques centrales vont faire. Et ma troisième réflexion, une banque c'est toujours un animal hybride parce qu'une banque à la fois c'est un peu une utilities, une entreprise de service public, on y dépose des sous, on y fait des crédits lambda, et puis à la fois, ça finance le risque, ça prend du risque, et aujourd'hui, c'est les mêmes établissements qui font l'un et l'autre, et quand on parle de réglementation, et à chaque fois qu'on a une crise bancaire, on se dit, mais est-ce que la réglementation est bonne ou pas? Et déjà, on voit apparaître ce genre de réflexion, et eh bien, on va voir venir l'idée qu'il y avait trop de risques, que ces risques n'étaient pas extrêmement bien gérés, et donc, est-ce qu'il faut avoir des banques universelles? Est-ce qu'il faut avoir des banques plus spécialisées? On va voir apparaître tout ça.
Aux États-Unis, est-ce que l'ambiance de crise qu'on a eue sur la Silicon Valley Bank et cet exode qui continue, des banques moyennes, des dépôts des banques moyennes vers les grandes banques, est-ce que c'est quelque chose qui inquiète ou pas du tout?
Oui, bien sûr. Bien sûr que ça inquiète.
Quand je disais tout à l'heure, les déposants sont...
Oui, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de banques régionales. Ouais. Faut savoir. Alors là, il se trouve qu'en plus, on a incriminé la tech parce que c'était SVB, effectivement. Mais vous preniez, par exemple, Signature Bank à New York, qui est basée à New York, qui était impliquée, elle, plutôt dans le sujet des cryptos. C'est très... Il y a beaucoup... Le rôle des banques régionales est très important aux États-Unis. Il faut le savoir. Après, il y a les mastodontes. Moi, je voulais revenir sur le rôle de l'actionnaire. Pourquoi protéger l'actionnaire? Quand on fait un investissement, nous, on est investisseurs, on investit en notre... On fait notre travail, mais on sait très bien qu'on peut investir dans une société qui demain peut disparaître. C'est exactement la même chose. Moi, je crois que la difficulté des banques, c'est aujourd'hui, moi personnellement, on n'achète pas de banque. Pourquoi ? Parce que la qualité d'une banque, c'est la qualité de ses assets. Or, le problème, et on le voit là, c'est que les assets, ils sont pas forcément, on n'a pas la bonne visibilité. C'est très dur de lire. Alors, j'ai très peur de dire ça devant Romain, qui est un spécialiste et qui sait lire
probablement. Extrêmement dur et je sais pas lire.
Un bilan bancaire.
Mais à ceux qui me disent ça, je dis est-ce que vous savez lire comment BMW fait des voitures? Ou est-ce que vous comprenez qu'est-ce que vous comprenez toutes les...
Non, bien sûr,
la limite
pas
de comprendre le produit ou de comprendre la compréhension.
Ah bah oui, mais c'est quand même notre job. C'est quand même notre job et d'essayer de comprendre ce qui peut se passer. Et là, il se trouve que SVB, c'est très clair. Ils ont mis des actifs court terme en face en investissement long terme. C'était... Donc c'est décalage. Voilà.
C'est très compliqué.
Et le dernier point, c'est la confiance. Le maître mot pour les banques et pour le secteur des banques, c'est le facteur confiance. C'est un secteur de momentum. Et donc, les bank runs, c'est confiance. Et ce qu'il faut surveiller, surtout, moi, ce qui m'inquiète, ce qu'il faut regarder, mais là, pour le moment, il n'y a rien qui présume, c'est le problème de liquidité, d'interliquidité interbancaire, la liquidité interbancaire, c'est ça. Souvenez-vous de Lehman, c'était le problème et c'est ça qu'il faut éviter. Bien sûr que les déposants, je pense qu'il y a une volonté de la part des autorités de protéger.
Ce n'est pas une volonté, c'est qu'il n'y a pas de choix.
Il n'y a pas de choix, mais enfin bon, il ne faut jamais dire jamais. Mais la liquidité interbancaire, c'est ce qui permet de faire tourner l'économie. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
Romain, vous investissez-vous dans les banques? D'accord. Vous arrivez à comprendre ce qui se passe et quand vous voyez des situations comme celle-là, est-ce que vous vous dites, parce que j'imagine, je sais que vous n'investissez que dans ce que vous comprenez, donc j'imagine que vous le comprenez. Et quand vous voyez des situations comme celle-là, est-ce que vous vous dites, à la limite, elles peuvent mourir en bonne santé?
Alors ça, c'est possible. Mourir en bonne santé, c'est-à-dire mourir avec suffisamment de capital,
sans problème,
mais ne pas avoir,
voilà.
Alors moi, j'aime bien la remarque d'Hervé, c'est-à-dire les vrais drames dans les banques. où les vraies frayeurs, c'est quand on découvre un risque qui n'existait pas avant. Vous voyez, donc, pas vraiment un risque de mismatch de liquidité que vous décrivez. La Silicon Valley Bank, elle a grandi très vite, elle a mal géré son bilan, elle a acheté des fed funds à long terme, elle a fait des prêts qui n'étaient pas forcément...
D'accord.
C'est la gestion bancaire classique, mais c'est rien de nouveau. Hein, le vrai truc qui est important, c'est quand il y a un risque nouveau que vous ne connaissez pas. Je vous souviens, quand il y a eu la crise asiatique en 97-98, toutes les banques européennes avaient décidé auparavant que l'Asie était une zone d'avenir. Ils avaient raison sur le... Mais ils avaient fait des prêts en dollars à des sociétés locales. Le timing n'était pas bon. Il y avait une bulle. Ça a coûté quelques milliards d'euros. Leur cours a beaucoup baissé. Elles n'ont pas fait faillite pour autant. Hein, donc c'est le risque nouveau, c'est le risque des subprimes par exemple. C'est le risque d'éclatement d'une bulle sur un secteur particulier en se disant ben voilà. Et donc souvent c'est des risques. Aujourd'hui on n'a pas vraiment ce risque nouveau dans le secteur.
D'accord.
On a le risque économique.
On va y revenir en deuxième partie. Benaouda, vous vouliez juste rajouter quelque chose. On va continuer à parler des banques en deuxième partie.
C'est une éditorialiste en vue à Bombay qui disait que les Américains ont un don exceptionnel pour expliquer ex post leur propre incompétence. Et de ce point de vue-là, vous avez peut-être vu cette semaine et le gouverneur de la Banque d'Angleterre s'exprimer devant la commission des finances, la commission spéciale du Trésor, pour expliquer que 18 à 24 mois avant l'affaire de la SVB, alors peut-être que quelqu'un était au courant ici, mais personne. Mais
je l'ai lu et personne n'était au courant.
Ils ont saisi la Réserve fédérale de San Francisco pour leur dire qu'il y a un problème de risque de concertation et de chevauchement des clients entre les livres de prêts et de dépôts de SVB 18 à 24 mois avant. Et à moins que quelqu'un ait cette information, strictement personne ne l'avait. Donc le point de vue de cette éditorialiste indienne qui s'adresse à des je précise, à des dizaines et des dizaines de millions de téléspectateurs risquent aussi de perdurer.